vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 148. Gérard Cardone, whisky et Kalachnikov, ça frissonne. Chers amis, bonjour. Alors, il y a des fois, on se dit, eh bien, je ne vais rien dire. Vous rencontrez un personnage dans un salon du livre et la première chose qu'il vous dit, joignant le geste à la parole, moi, j'écris avec une Kalachnikov. Tac, 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 tac. Alors, le monsieur, il a vraiment une tête de baroudeur. Bon, il est en face de moi, et puis j'ai dit, ça frissonne pour que ça rime avec Cardone. Mais, et sur la table, donc au salon du livre, ce monsieur qui est, bon, vraiment, on se dit, il est général 5 étoiles, il était dans les commandos, et tout le bazar et tout. Et le bouquin qu'il a sur la table, ça parle de quoi? Ben, le titre, c'est « Whisky ». L'or de l'Alsace. Donc un gars qui a dû tuer une dizaine d'ennemis, il écrit un bouquin sur le whisky en Alsace, qui, entre nous soit dit, moi j'aime bien le whisky japonais, le whisky alsacien parfois. Ah mais il paraît que c'est bon, donc il va nous expliquer pourquoi. Donc l'écrivain n'a pas du tout l'air bourré, même s'il n'est pas bourru non plus, hein. Et il est tout de suite très très sympathique, donc on se dit, tiens, bon, on va l'inviter dans notre émission de radio, sur Radio Judaïque à Strasbourg, et on se dit, juste pour être un écrivain, peut-être qu'on est aussi un petit peu un imposteur, et ça va ensemble. Bonjour Gérard Cardone.
Eh bien, bonjour, ça fait plaisir de se rencontrer ici.
Alors, vous êtes vraiment, je donne tout de suite votre curriculum vitae, vous êtes saint-cyrien, donc c'est quand même... pas rien, hein. Vous avez fait la Légion en Algérie, vous avez été chef d'état-major de la 5e division blindée en Allemagne, et dans votre bibliographie sur Wikipédia, alors écoutez bien, chers auditeurs, j'ai compté 41 bouquins, vous avez écrit 41 livres, et si on compte encore le dernier qui n'est pas dans Wikipédia, là, sur le whisky, mais est-ce que c'est vrai tout cela ?
C'est vrai, bah, il faut bien commencer par le premier, toujours. Hein. Ensuite, je me suis mis de suite un mantra. De règle, je suis un peu aventurier, si je puis me permettre, en littérature. Je vais toujours à l'extérieur, parce que je pense qu'on apprend beaucoup à l'extérieur. Chez soi, c'est un peu, toujours un peu redondant. Et tous les 7 livres, j'ai une règle, je fais un livre sur l'Alsace. Sur des produits alsaciens. J'ai fait la bière de Heineken, la flambée, les vins d'Alsace, etc. Et là, j'ai voulu faire un livre sur le whisky alsacien parce que j'étais sûr, quand je vois les réactions dans la vôtre, parce qu'on n'est qu'on pas bu de whisky, j'ai vu certains que c'est tout de même une particularité vraiment spéciale. Il n'y a que 2 régions en France qui font l'IGP. Qui est une caractéristique des grands spiritueux, la Bretagne et l'Alsace. Et en fait, on est un peu sœurs, l'une vers l'Atlantique, l'autre vers la Germanie.
Vous connaissez la différence entre la Bretagne et l'Alsace ?
Oui, j'ai fait Saint-Cyr, donc j'ai vécu en Bretagne, à Saint-Cyr côté.
Non, mais en Bretagne, c'est une blague de Roger Siffert. Hein. Ouais. En Bretagne, ils ont l'océan,
oui.
Et nous, en Alsace, on a la mer Pierre. Non, mais je l'adore celle-là, j'essaie de la placer souvent, vous la connaissez. Oui. Donc alors quand même, Gérard Cardone, bon, mis à part d'écrire des petits bouquins sur le whisky alsacien, donc... Vous l'avez répété, vous êtes Saint-Cyrien, vous êtes parti à la guerre quand même. Alors, vous étiez presque trop jeune pour faire l'Indochine, mais vous êtes parti en Algérie.
Ah, oui. Le jour où nous avons fait le concours de Saint-Cyr, j'étais à Strasbourg, c'était le jour où on a signé les accords de
Genève.
C'est la chute de Diemenfou.
La chute de Diemenfou.
On s'est levé, on pleurait tous. On voulait y aller. Je vous assure, à Strasbourg, je me rappelle. On peut pas y aller.
Non, mais ils étaient dans la foulée. Ceux qui y allaient, la moitié ne revenait pas. Ils étaient morts.
Mais quand on rentre à Saint-Cyr, on pense pas à la mort.
Non.
Ça fait pas partie du deal, c'est tout.
Et alors quand on écrit un livre, on pense à l'éternité? On se dit qu'il va rester quand on sera mort?
Non, non, je ne pense pas. Il faut avoir un peu de modestie, ça restera.
Et les modestie livres, après 41 bouquins.
Ça s'amoncelle, ça s'amoncelle.
Oui. Bon, voilà. Mais alors, juste à la fin de votre carrière militaire, vous aviez quel grade?
Colonel, chef d'état-major. Ah oui. À Landau.
C'est où? À Landau. À
Landau. Ah oui, oui. À Landau.
Landau. Oui, oui.
Landau, c'est pour les dames qui prennent. Mais les bébés.
D'accord, d'accord.
Landau. Landau. Ville de la Décapole.
Oui. On l'oublie. Oui, un comme Wissembourg, comme Agno. Oui, 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 oui.
Comme Colmar et pas comme Strasbourg. Non, non. Qui n'a jamais fait partie de la Décapole. Je le rappelle.
Voilà. Alors, en plus, vous êtes un érudit alsacien. Mais, donc, bon, on va essayer, alors c'est très pêle-mêle, hein, mais dans notre émission, on aime bien le côté un petit peu fourre-tout, comme ça et tout. Donc, vous faites Saint-Cyr, pourquoi? Pourquoi vous avez choisi Saint-Cyr?
Je crois que c'était...
Vous étiez bon à l'école? Vous étiez au lycée à Strasbourg?
Non, non, j'ai deux concours. Je colma. Rien.
À Colmar,
très fier d'être Colmar. Ça n'a rien à voir avec Strasbourg.
Non, non.
Vous savez, ce sont deux villes totalement séparées.
Mais à Strasbourg, il y a une association pour les réfugiés orinois qui ont le droit de venir.
Oui, mais je ne suis pas réfugié, je suis terroriste.
De la diaspora orinoise.
Je suis dans le terrorisme.
Non, non, non. Donc, vous étiez à l'école.
Au lycée Bartholdi à Colmar.
Voilà. Et tout d'un coup, vous aviez eu une vocation militaire.
Oh, oui, oui. Bon, mon père était tué en Indochine. Il reste quelque chose dans la famille. Militaire, ça va de soi. Ça va de soi. Et puis, le fait que mon père était tué en Indochine, c'est une sorte de revanche pour moi.
Ah oui.
Donc j'ai voulu y aller.
Il a été tué avant Dien Bien Phu ou...
Ah oui, juste avant, oui. Oui,
ouais, c'est quelque chose, je suppose...
Ah, oh, mais ça vous marque. Hein.
Ah ben, oui, ah, ça... Oui.
Comme vous êtes un gamin...
Mais attendez, ça vous marque. Moi, au bout de 10 secondes où on s'est croisés, voilà, vous prenez votre Kalachnikov de Père Noël, là, et vous me tirez dessus.
Oui.
C'est quoi ce truc-là?
Mais parce que, visiblement, vous aimez le whisky. Je me suis dit que là, il va marcher.
Ah bon?
Je vais sulfater au whisky.
Oui, mais alors, vous avez utilisé la Kalachnikov ou alors peut-être d'autres armes?
Non, non, je l'ai utilisé en Afghanistan.
Oui.
Parce que je n'avais pas... Je suis allé à titre... personnel, privé.
Oui.
Ah oui, j'ai combattu avec le commandant Massoud, pour ceux qui connaissent.
Voilà, justement, ça c'était la suite de l'interview. Mais...
On avait des armes locales.
Mais alors, vous êtes allé en Afghanistan comme ceux qui vont dans la division Wagner, là, ou c'était...
Oui, mais c'était la différence, c'est que je n'ai fait partie d'aucun wagnerisme, et j'étais à titre individuel.
Oui, et c'était en 1990,
je 2000 sais.
Ah, en 2000
oui. À un moment où Massoud a combattu contre les talibans.
Alors, justement, parlons de Massoud maintenant. Peut-être que tous les auditeurs de Radio Judée qui est à Strasbourg ne voient pas qui c'est. Donc, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La nuit afghane ouais. » et puis un autre aussi avec l'Afghanistan qui s'appelle...
Où j'en ai fait deux ans. Mais La nuit afghane, c'est le livre qu'il a préfacé.
Voilà. Alors, vous avez la préface du commandant Massoud, qui était celui qui allait rétablir la démocratie en Afghanistan et qui a été assassiné par deux faux journalistes marocains hein, qui se sont fait passer et qui avaient dans la caméra une Kalachnikov et qui ont dégommé le commandant Massoud. Oui, mais Massoud est venu à Strasbourg.
Il est venu, je me rappelle encore, et bon, ça me gêne un peu de dire certaines choses, et quand il est venu, naturellement, c'était l'époque mitterrandienne, et forcément...
Et vous l'aviez connu avant?
Ah bon, moi j'avais connu là-bas.
Sur place?
Alors quand il est venu, on était en liaison, je me rappelle, on se voit à l'hôtel Hilton, je le vois, on discute, il me dit, je fais une grande conférence, vous venez? Je lui dis, oui, je viens naturellement, je viens... Impossible d'avoir une salle. Je fais attention parce qu'aujourd'hui, c'est une candidate à la mairie de Strasbourg qui était aux commandes. Et je n'ai pas oublié.
Ah, mais alors, moi, je peux vous raconter aussi l'anecdote parce que moi aussi, je l'ai rencontrée. Je travaillais au Parlement européen et c'était Nicole Fontaine.
Ah, Nicole Fontaine, je la connaissais aussi.
Ah, voilà, qui était présidente. Ah. Voilà, et elle est tombée, mais... Alors, je ne veux pas dire sous le charme...
Mais total.
Total, voilà. Total. Bon, ça, cela ne nous regarde pas. Mais elle était convaincu qu'il fallait soutenir la démocratie en Afghanistan et elle a vraiment tout fait pour lui, pour l'aider. Il a été reçu de façon solennelle au Parlement européen au cours d'une session plénière.
Je me rappelle de ça.
Et faut dire que, nous, les conseillers politiques, comme on dit, les petites mains, on était quand même abasourdis de voir un gars aussi sympa, aussi cultivé, aussi, et quel malheur lorsqu'il a été assassiné, parce que je pense que ça aurait changé la face de l'Afghanistan. Les talibans ne seraient pas revenus, peut-être, grâce à Massoud.
Enfin, c'est possible. Là, c'est l'histoire.
Votre prochain bouquin. Vous faites une uchronie. Massoud n'est pas assassiné, il devient président de la République afghane, comme vous savez, Philippe Roth qui a fait The Plot of America. C'est l'inverse, c'est Lindbergh qui gagne, il est nazi et les États-Unis deviennent les alliés de Hitler. Mais là, ce serait Massoud, président, qui vire les Russes.
Quand vous faites presque des élucubrations de ce genre, moi, je n'oublie pas quelque chose, je suis très impliqué dans l'histoire, je participe tous les ans à la manifestation afghane Place Kléber. Tous les ans, je suis là. Ils me connaissent. Et quand j'ai vu que l'ONU vient de donner la défense des droits des femmes aux Afghans de Kaboul, le mépris que j'ai pour cette institution, le machin, comme disait De Gaulle, est incommensurable.
Mais pourquoi ?
Vous n'avez jamais vu une femme comme moi, j'ai vu une amie devant moi se faire tuer parce qu'elle enlevait son voile pour boire de l'eau à une fontaine. Et le gars, j'ai pas hésité, hop là, je l'ai liquidé. Mais c'est l'idée que ça puisse arriver. C'est quand je le dis, ça paraît ici, mais sur place, ça vous prend au trip. Hein.
Mmh. Bon, alors, vous venez de l'évoquer, donc vous avez été militaire officiel et donc un peu officieux. Est-ce que vous savez, alors, excusez-moi, je pose la question, chers auditeurs, combien est-ce que de gens vous avez, enfin, qui sont morts à cause de vous, que vous avez tués, ou parfois on tire, mais vous ne voyez pas, vous n'allez pas voir de l'autre côté.
Certainement, mais je peux vous assurer...
Est-ce qu'on a le droit de dire ça, ou c'est tabou par rapport à un militaire ?
Non, ce n'est pas tabou, mais même ça, on ne sait pas. Honnêtement, je ne pourrais pas vous répondre.
En Algérie, par exemple.
J'étais dans une unité de combat, et la Légion étrangère, on n'est pas des joueurs de football, hein, que les choses soient claires. On est au combat, je crois qu'au combat, c'est fait pour... Quand vous allez à la chasse, c'est pour tirer des lapins. Ouais. Là, au combat, c'est pour tuer des ennemis, à défaut de vous faire tuer. Bon, le nombre de copains qui sont tombés... Ça, on n'en parle pas en France, c'est pas bien. On leur met des croix, on met un drapeau, ça fait très bien. Et puis, hop, 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 on les fait disparaître. On a tout de même des particuliers, des partis très à gauche, qui récusent tous les soldats qui sont tombés pour notre pays. Et depuis toujours, n'oubliez pas la collusion de la gauche avec le parti soviétique, quand Hitler a envahi ici, la collusion qu'il y avait. Là, on rentre dans la politique. Qui n'aime pas qu'on évoque les réels. Mmh. Ah, moi, je suis alors intransigeant. Hein. Je dis ce que je pense.
Mais vous avez fait vos... Alors, je vais exprès, par provocation, dire ça. Vous avez fait vos petites saloperies en Algérie. Non, je sais. Je m'en doute. Mais c'est pour ça que je le dis. Mais n'empêche que vous aviez certainement vos raisons, que vous aviez une fidélité, vous aviez un honneur. Et tout ça,
un devoir, tout simplement.
Ou un devoir.
J'ai signé pour ça.
Vous avez signé pour ça. Et ensuite, vous êtes grand chef en Allemagne.
Ça change, ça.
Oui, mais quand même. Donc ça veut dire que la patrie reconnaissante a reconnu votre valeur, votre technique, votre façon de mener vos hommes. Est-ce que, quand vous étiez lieutenant-colonel, hein, c'est ça ?
Colonel.
Colonel tout court, c'est mieux. Oui, c'est au-dessus. Est-ce que vous étiez aussi, comment dire, sympa avec vos hommes, que vous êtes ici sympa à la radio ou
quand vous commandez, vous donnez un ordre, c'est toujours les yeux dans les yeux, et vous savez, eux, comme vous, vous savez très bien que tout le monde ne reviendra pas de l'ordre que vous avez donné. On ne viendra pas. On dit à l'assaut, on part à 25, 30, Combien reviennent? On ne sait pas. Vous parlez allemand, je crois.
Oui, ein bisschen.
Ein Kugel kam geflogen. Gilt es für dich oder für mich? Vous ne savez pas.
Les gars tombent à côté de moi, etc.
C'est pas moi qui ai organisé, c'est, je crois qu'il y a quelqu'un là-haut qui choisit peut-être la trajectoire.
Mmh. Oui, d'accord. Mais quand même, vous étiez jovial, vous étiez... vos hommes vous aimaient
je crois que, honnêtement, oui. Parce que j'avais donné une règle dans mon unité. Personne ne me dépasse. Je suis le premier en tête.
Ah oui.
Et les gars, ils me poussaient, littéralement.
Ah oui. Ah oui, c'est prendre. Alors justement, à Saint-Cyr... quand vous avez fait donc vos études, ça c'est un des principes que l'on apprend. Vous étiez de quelle promotion?
Franché des Perrets, 55-57, ça fait
voilà.
loin.
Voilà, mais dans la même année, il y avait celle qui s'appelait ceux de Bien Bien Fou.
Oui, c'était mes anciens.
Ah voilà, et puis celle du lieutenant-colonel Amila
Gvary. C'était juste avant moi.
Ah voilà, parce que lui justement, il a été tué... Parce qu'il est allé devant ses hommes.
C'est un légionnaire.
C'est un légionnaire. Voilà.
C'est un monde
c'est
à part.
C'est un personnage tout à fait extraordinaire. Un géorgien, naturalisé français.
C'est peut-être le plus beau, même sûrement le plus beau souvenir de ma vie. Vous savez, je vous rappelle une anecdote. Comme ça. Une embuscade, on tombe dans une embuscade.
En Algérie,
un gars, il prend une balle dans la gorge. J'étais un jeune lieutenant. En matière chirurgicale, je n'y connaissais rien, je savais mettre un pansement. J'étais là, le gars il agonisait devant moi. Et puis un gars, il me bouscule, il dit « Mon lieutenant, laissez-moi !» Il s'occupe, le gars, je le laisse. Il avait les gestes sûrs.
C'était un toubib.
Et puis après, bon, nous on continue le combat, on mène. Et puis on récupère le gars à la fin. Je trouvais qu'il n'était pas trop mal, on avertit les secours, il les ramène, et il rentre à INSEFRA. Le lendemain matin, le chirurgien me dit, mais où est-ce que vous avez appris ces gestes? Je dis, vous parlez de quoi? Mais le gars là que vous m'avez ramené, je dis, honnêtement, j'ai rien fait, je ne peux pas faire. Mais il y a un gars qui dit, envoyez-moi-le. C'était un grand chirurgien hongrois.
Ah oui.
Des anecdotes comme ça, vous ne les oubliez pas. Hein.
Oui, oui. Et c'est tellement invraisemblable qu'elles sont vraies.
Ah oui, j'étais là, ébahi.
Voilà.
Ouais, ouais.
Voilà. De tous ces livres que vous avez écrits, lequel, non pas lequel que vous préférez, mais lequel vous avez préféré écrire, avec de telles anecdotes comme celle-là? Cette anecdote-là du chirurgien hongrois, vous l'avez dans un bouquin?
Je crois que je l'ai mise dans la Matmora, qui est le livre sur la guerre d'Algérie. Mm-hmm. Je crois que je l'ai mise dedans. Oui. Maintenant, vous savez, il y a des moments...
Qu'est-ce qui vous plaît dans écrire?
Je dirais presque, c'est témoigner. Alors les gens acceptent. Vous voyez ça, c'est aussi un témoignage. Vous passez un message, je ne vais pas faire attention. C'est comme un rabbin, un curé, un pasteur. Il passe un message, combien de gens l'écoutent? Ah, c'est le problème après.
Alors, certains de vos livres ont été traduits en allemand, en anglais,
oui.
En bosnien et sur l'Afghanistan, en dari.
En dari.
C'est une langue. Voilà.
Oui, ça.
Comment ça se fait? C'est parce que vous parlez de Massoud et que.
Je dirais que ça va un peu de soi. Je prends l'exemple le dernier livre qui a eu sur les valeurs, qui a eu le prix des valeurs européennes à Berlin, le violoniste Sarajevo, c'est Hartmut Bühl, conseiller politique de Helmut Schmidt et Helmut Kohl, qui m'a fait la préface. Non, on est amis, il faut voir ça remarquablement bien.
Je pense que vous n'avez plus d'ennemis maintenant. Bon, vous avez un âge un tout petit peu, celui de la retraite.
Je vous arrête, vous n'avez de valeur que si vous avez des ennemis.
Ah.
Si vous avez des copains, tout le monde a des copains. Des vrais ennemis, ça c'est bon, c'est intéressant ça, parce que là vous pouvez y aller.
Mais franchement, quand on vous rencontre, on se demande, on peut pas être ennemi avec vous. Vous êtes trop. Non mais je dis ça. Vous êtes trop sympa, quoi.
Oui, si on boit un verre de whisky ensemble, vous verrez. Ah, voilà.
Alors justement, vous avez écrit un bouquin sur le whisky alsacien. Ouais. C'est de la promotion pour les.
Non.
Vous êtes pas sponsorisé par quelqu'un qui vous. Non.
On
insulte.
Aucune façon. Oui. Tous les 7 livres. Je fais donc un livre sur l'Alsace, mais voilà. Typiquement alsacien.
Alors, j'ai une bonne idée pour vous. Faites un livre sur la tarte au fromage en Alsace.
Ah, j'ai le flammekueur.
Ah non, pas le flammekueur. Non, la tarte au fromage.
Enfin, le fromage.
C'est un gag chez nous dans notre émission. On parle toujours de la tarte au fromage de la rue Gaillère à Strasbourg, qui est la meilleure. La meilleure de la rue, en tout cas. Mais avec un tout petit peu, alors il y en a qui disent fleur d'oranger ou une goutte d'amande dedans dans la pâte et tout, donc ça pourrait faire un bouquin, non? Ça vous inspirerait pas? Non.
À mon avis, vous êtes un peu sybarite, vous, de votre genre, hein. Et ça probablement, mais non, j'ai fait la tarte flambée, j'ai pris des thèmes un peu qui sont très connus, et parfois ceux qui sont pas connus, comme celui-là. Voilà. Et quand j'ai écrit le livre, quand il est vu dans mes mains, j'étais honnêtement très fier, je dis j'ai ouvert un classeur, j'ai mis une feuille, j'ai montré à ma compagne, j'ai dit, tu vois, c'est mon 7e prochain livre. Alors, je ne vous dis pas le nom, un produit alsacien que vous connaissez toutes et vous êtes incapable de me donner le nom.
Ah bah c'est formidable ça, là.
Je ne le dis pas. Il faut attendre 7 bouquins.
Voilà, donc c'est quand même Gérard Cardone. Bon, alors en plus, vous êtes président, j'ai vu, de la Société des écrivains d'Alsace.
De Lorraine, et du territoire de Belfort, la plus vieille de France.
Ah oui, il y a combien de membres?
Pour 300 à peu près.
Ah oui, ils écrivent tous des bouquins.
Ils s'acharnent tous avec les bouquins.
Disons que vous avez une grande bibliothèque dans le local.
Elles sont individuelles, je ne vais pas dans une bibliothèque. Oh là là.
Non. Alors justement, une question. Quand on arrive, vous comme moi, à un certain âge, vous avez plein de bouquins à la maison que vous avez accumulés depuis 40 ans, 50 ans. Tous les murs sont couverts de bibliothèques. Les livres sur les étagères sont sur 2 ou 3 couches. Donc, moi, je fais un truc, je fais une photo de la première couche. Et ensuite, je mets une deuxième couche de bouquins, un troisième bouquin. Comme ça, quand je cherche un livre, je regarde dans mes photos, je sais où il est. Donc, vous êtes obligé de le racheter parce que vous ne le retrouvez pas. Qu'est-ce que vous allez faire de vos bouquins? Vous avez des enfants qui vont s'en...
J'ai un garçon et 3 petits-enfants, dont un, je suis très fier, il vient d'entrer comme nageur de combat.
Ah bon?
Il s'est engagé nageur de combat.
Je me suis dit, je suis très fier, il est rentré en fac de lettres, et il va être un spécialiste de la littérature française du 19e siècle, et il adore Flaubert.
Quand je vois le niveau des facs de lettres françaises, j'ai honte.
Ah bon?
J'ai honte de voir qu'ils oublient les grandes valeurs humanistes.
Donc votre petit-fils va être bidasse aussi, professionnel?
Il va pas être bidasse, il va être nageur de combat, ne lui dites pas ça.
Un nageur de combat? Oui, d'accord. Mais
il a opté. Hein.
C'est pas les dents de la mer, ça, c'est quoi?
Il fait quelque chose que...
C'est comme les époux Tourange, vous savez, qui ont coulé Rambo Warrior. C'est ça, les nageurs de combat.
Non, c'était des officiers mariniers. Tandis que les nageurs de combat, c'est ceux qui sont là en dessous.
Ah oui?
Ils sont vraiment en dessous de l'eau.
Mais ils se battent contre qui?
Ah ben en fait, ils attaquent des objectifs. Ils n'attaquent pas des personnes. Bon, il y a des personnes derrière, mais ils attaquent des objectifs. Bon. On va prendre un bateau particulier, un sous-marin particulier. C'est ça, c'est leur boulot.
Bon, alors, monsieur Cardone, un peu tueur, mais pas trop, vous êtes aussi dans l'humanitaire, vous défendez les droits de la femme. Ça, vous ne le racontez pas trop, mais j'ai trouvé ça dans votre bio. Vous êtes quand même un type assez, non seulement éclectique, mais quelqu'un de bien, comme on dit.
Ah non, ça surtout pas. Ça, c'est le genre de... c'est presque péjoratif pour moi, quand on me dit ça.
Est-ce que vous courez après les médailles?
Pourquoi faire?
Ah non. Vous n'êtes pas venu avec les
pantalons et tout ça? Jamais porter mes décorations.
Ah bon?
Jamais.
Très bien.
Sauf en milieu militaire. Oui. Mais en civil, quand je vois...
Mais vous avez quand même des décorations en tant qu'écrivain. littéraire. Oh, oui, vous avez eu, je ne sais plus quoi, le...
Oui, oui, j'ai eu pas mal de...
Oui, mais... Est... Oui, oui, chevalier de la Légion des arts et lettres.
Oui, mais... On n'écrit pas pour ça. Non. On combat pas pour ça. Ça vient, et parfois... Bon, je ne veux pas trop épiloguer là-dessus, tellement j'ai honte quand je vois les décorations qui se donnent au copinage.
Alors, la décoration, quel bouquin vous aimeriez emmener sur une île déserte ?
De moi ?
Ah non, 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 de, non, non, ben non. Votre livre préféré ?
Franchement, il y en a plein, je sais que vous dites ça. Vraiment, vraiment, j'en ai pas mal, mais j'ai... Bon, j'avoue franchement, qui me prend trip littéralement, systématiquement, Saint-Ex.
Saint-Ex.
Ah, Saint-Ex, je trouve que...
Bon, alors on en parlera après, parce que...
Saint-Ex, c'est extra.
Ah oui.
Ah oui, vous
Ah oui.
Vous
alors, rêvez, Courrier vous Sud, rêvez, vous... oui. Moi, alors, je vais vous dire, et après, ce sera la fin de l'émission, je déteste Le Petit Prince. C'est dégoulinant de bonnes intentions et tout. Meurk, alors, vous allez m'assassiner après l'émission. Hein. Mais en revanche, comme j'ai une fois eu le malheur de dire ça, Le Petit Prince Bork, j'ai lu les autres de Saint-Ex. Franchement, c'est vachement bien écrit. Oh, c'est bien. Bien. Ouais,
et,
c'est bien.
Et
c'est
dans
bien.
Saint-Ex, vous savez le personnage que j'aime ?
Oui.
Le renard.
Ah oui, bien sûr, le renard, bien sûr. Bon, voilà. Alors, c'était l'épisode numéro 148, Gérard Cardone, Whisky et Kalachnikov, ça frissonne. Vous écrivez sur quoi en ce moment ?
Alors, ça va, c'est mon... J'ai entrepris, parce que je fais comme ça, hein. Je ne parle pas du septième livre qui vient dans 7 ans. Ah. Mais j'ai un petit carnet à la maison que m'a envoyé un officier que mon père a été tué en Indochine. Et c'est le carnet dans lequel il écrivait. Tout,
et vous allez écrire là-dessus.
Et oui. je vais partir.
Et vous n'allez pas écrire sur l'amicale des militaires retraités. Non, c'était une blague. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïque à Strasbourg tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, j'accueillerai une dame assez fascinante. Elle a changé 4 fois de nom de famille, genre grande dame, assez impressionnante. Et elle va nous dire pourquoi sa vie est toute banale. Vous l'avez bien connue à la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.